Juin, 32 degrés. Vendredi 16. C'était le 3 juin la fête nationale. Elle a été retardée de 7 jours à cause de la mort de Garibaldi et depuis 5 jours que les fêtes sont passées, la chaleur a augmenté de 3 degrés. Nous sommes en plein été à présent. On commence à être fatigué et on perd les belles couleurs qu'on avait au printemps. Les coudes et les jambes fléchissent, les têtes s'inclinent et les yeux se ferment. Le pauvre Nelly souffre beaucoup de la chaleur, il a le visage tout pâle et quelquefois il s'endort profondément, la tête sur son cahier. Garonne est toujours attentif à mettre devant lui un livre ouvert, posé debout, afin que le professeur ne le voie pas. Cross y a une telle façon d'appuyer sa grosse tête à cheveux roux sur son pupitre qu'il semble l'avoir détaché du corps. Quant à Nobis, il se plaint que nous sommes trop nombreux et que nous absorbons l'air. Ah, que d'efforts il faut faire maintenant pour étudier! De nos fenêtres, je vois les beaux arbres qui font un ombrage épais sous lequel on courait si volontiers. Et je m'attriste et m'enrage en pensant qu'il faut aller s'enfermer à l'école. Mais je prends patience pour ma bonne mère qui me regarde avec inquiétude quand je sors de l'école, s'inquiète si j'ai pâli et qui me demande à chaque page que j'écris. « Tu n'es pas trop fatiguée ?» En me réveillant à 6 heures pour ma leçon, elle me dit « Courage, tu n'as plus que tant de jours et puis tu te reposeras à la campagne. » Elle a bien raison de me rappeler qu'il y a des enfants qui travaillent dans les champs sous un soleil de feu, ou sur le gravier blanc des grands fleuves, ou dans ces fabriques de verreries où on a le visage continuellement penché sur une flamme de gaz. Tous ces enfants-là se lèvent avant nous et n'ont point de vacances. Du courage, donc. Le premier de nous, même à nous en donner l'exemple, c'est encore des Rossi, lequel ne souffre ni de la chaleur ni du sommeil et qui est toujours vif, allègre, avec ses boucles blondes, été comme hiver. Il étudie sans fatigue et tient tout le monde alerte autour de lui, comme s'il rafraîchissait de sa voix l'air qui l'environne. Il y a encore 2 écoliers, toujours éveillés et attentifs, cet entêté de Stardi qui se pique le nez pour ne pas s'endormir, car plus il fait chaud, plus il est fatigué et plus il serre les dents et ouvre les yeux, comme s'il voulait dévorer M. Perboni. Et ce faiseur d'affaires de Garofi, très occupé à fabriquer des éventails de papier rose, ornés d'enluminures prises aux boîtes d'allumettes, qu'il vend 2 centimes chacune. Le plus courageux est encore Coretti, ce pauvre Coretti qui se lève à 5 heures pour aider son père à porter du bois. À 11 heures, il ne peut plus tenir ses yeux ouverts et sa tête retombe sur sa poitrine. Cependant, il se secoue, il se frappe sur la nuque, demande la permission de sortir pour se laver le visage et se fait pincer par ses voisins. Ce matin, n'en pouvant plus, il s'est endormi d'un sommeil de plomb. Le professeur l'appela fort. « Coretti !» Il n'entendit pas. M. Perboni, irrité, répéta « Coretti !» Alors le fils du charbonnier, qui habite près de chez lui, se leva. « Coretti a porté des fagots depuis 5 heures du matin, » dit-il. Le professeur le laissa dormir et continua la leçon pendant une demi-heure. Puis il alla doucement au pupitre de Coretti et, en soufflant sur son front, il le réveilla. En voyant devant lui M. Perboni, Coretti se recula effrayé. Mais celui-ci prit la tête de l'enfant dans ses mains et, l'embrassant sur les cheveux, « Je ne te gronde pas, mon fils, » dit-il. « Ton sommeil n'est pas celui du fainéant, mais celui du travailleur. » Mon père, samedi 17. « Non, certes, ton camarade Coretti, ni Garonne, ne répondraient jamais à leur père comme tu lui as répondu hier soir, Henri. Est-ce possible? Il faut que tu me jures que cela ne t'arrivera plus tant que je vivrai. » Chaque fois qu'après un reproche de ton père, une méchante réponse flottera sur tes lèvres, pense à ce jour qui viendra irrévocablement où il t'appellera à son lit de mort pour te dire « Henri, je te dis adieu. » Ô cher enfant, quand tu entendras la voix de ton père pour la dernière fois, et même longtemps après, tu te demanderas comment tu as pu lui manquer de respect. Tu comprendras qu'il a toujours été ton meilleur ami et que, lorsqu'il était obligé de te punir, il en souffrait plus que toi, qui ne t'a jamais fait pleurer que pour te corriger de tes défauts. Alors tu pleureras, tu te repentiras, tu baiseras la table sur laquelle il n'écrira plus et où il a usé sa vie pour ses enfants. Ton père te cache tout, excepté sa bonté et son amour. Tu ne comprends pas que, parfois, il est si accablé de fatigue qu'il croit n'avoir plus que quelques jours à vivre et qu'il ne s'inquiète alors que de te laisser seul et sans protection. Et combien de fois, en pensant à cela, ton père entre dans ta chambre pendant que tu dors et reste là à te regarder, la bougie à la main, puis, fatigué et triste, fait un effort et reprend son travail. Et tu ne sais pas non plus qu'il te recherche lorsqu'il a au cœur une de ses amertumes, une de ses désillusions, comme il en arrive à tous les hommes. Pour se réconforter et oublier, il a besoin, ce pauvre père, de se réfugier dans ton affection où il puise la sérénité et le courage. Pense quelle douleur ce doit être pour lui quand, au lieu de trouver en toi de la tendresse, il ne découvre que froideur et irrévérence. Ne te rends plus jamais coupable de cette horrible ingratitude. Réfléchis que rien n'est stable en cette vie et que tu peux perdre ton père tandis que tu es encore enfant. Dans 2 ans, dans 3 mois, demain peut-être. Ah, mon pauvre Henri, comme tout changerait alors autour de toi. Comme la maison te semblerait vide avec ta pauvre mère vêtue de noir. Va, mon fils, va trouver ton père. Il est dans son cabinet de travail. Entre sur la pointe des pieds, mets ton front sur ses genoux et demande-lui qu'il te pardonne et qu'il te bénisse. Ta mère. À la campagne, lundi 19. Mon bon père m'a pardonné encore cette fois et m'a laissé aller à la partie de campagne projetée mercredi avec le père de Corette et le marchand de bois. Nous avions tous besoin d'une bouffée d'air pur. Ce fut une fête. Nous nous trouvâmes hier à 2 heures, place du statut, des Rossi, Garonne, Garoffi, Précoce et Corette, père, Corette, fils et moi, avec des provisions de fruits, de saucissons et d'œufs durs. Nous avions des verres en cuir et des bouteilles en fer-blanc. Garonne portait une calebasse remplie de vin blanc. Corette avait en bandoulière la gourde qui servait à son père lorsqu'il était soldat. Elle était pleine de vin rouge. Quant au petit Précoce, avec sa cotte de forgeron, il tenait sous son bras un pain de 2 kilos. On prit l'omnibus jusqu'à la station appelée Mère de Dieu, et puis à pied et vivement à courir sur les collines. C'était frais, vert, ombré. Nous nous roulions dans l'herbe, nous rafraîchissions notre front au ruisseau, nous sautions à travers les haies. Corette, père, nous suivait de loin, sa veste sur l'épaule, tout en fumant sa pipe, et de temps en temps, il nous menaçait de la main pour que nous ne fissions pas de trous à nos pantalons. Précoce y sifflait. Je ne l'avais jamais entendu siffler. Corette y fabriquait un tas de choses à l'aide de son couteau, des roues de moulin, des fourchettes, des seringues. Avec cela, il voulait porter les affaires de tout le monde et se mettait en nage, toujours leste comme un chevreuil. Desrosses y s'arrêtait pour nous dire le nom des plantes et celui des insectes. Je ne sais comment il fait pour savoir tout cela. Garonne mangeait son pain en silence, mais il ne le mordait plus avec ce joyeux appétit d'autrefois. Depuis qu'il a perdu sa mère, il est tout changé, ce pauvre Garonne. C'est toujours lui, cependant, bon comme le pain qu'il aime tant. Quand un de nous prenait son élan pour sauter un fossé, il courait du côté opposé nous tendre les mains, et comme Précoce y a peur des vaches, parce qu'il en a reçu des coups de corne étant petit, chaque fois qu'il en passait une, Garonne se mettait devant lui. Nous allâmes ainsi jusqu'à Sainte-Marguerite et nous descendîmes les pentes en sautant, en gambadant, en faisant la culbute. Précoce, en enjambant une haie, fit un accroc à sa côte et resta là, honteux, le lambeau pendant. Heureusement, Garoffi, qui a toujours des épingles sur lui, épingla si bien l'accroc qu'on le voyait à peine, tandis que Précoce y murmurait, selon son habitude, « Excusez-moi, excusez-moi !» Et il se remit à courir. Garoffi ne perdait pas son temps. Il ramassait de la salade et chaque pierre qui reluisait un peu, il la mettait dans sa poche, pensant peut-être qu'elle contenait de l'or ou de l'argent. Et en avant, à courir, à grimper, à glisser, à l'ombre, au soleil, sur tous les accidents de terrain, jusqu'à ce que nous fussions exténués et essoufflés à la cime d'une colline où nous nous assîmes pour goûter sur l'herbe. On avait de là un panorama splendide. Une plaine immense s'étendait à nos pieds et bien loin, les Alpes bleues coiffées de neige. Nous mourions de faim et le pain fondait entre nos bouches affamées. Corette et Père nous tendaient nos portions de saucisson sur des feuilles de courge en guise d'assiette. Tout en mangeant, nous parlâmes tous ensemble des maîtres, des camarades qui n'avaient pu venir et des examens. Précoce y avait honte de manger et Garogne lui mettait de vive force les meilleurs morceaux dans son assiette de feuillage. Corette y était assis près de son père, les jambes croisées. Il paraissait plutôt deux frères que père et fils, allés voir ainsi l'un près de l'autre, roses et souriants, avec leurs dents blanches. Le père buvait avec plaisir en nous disant « Les marchands de bois ont plus besoin de boire que les écoliers auxquels le vin fait du mal. » Puis, prenant son fils par le nez, il ajoutait « Aimez celui-ci, qui est une fleur de gentillesse, c'est moi qui vous le dis. » Et nous rions tous, excepté Garonne. « Dommage, soupira Corette y père, dire que nous sommes tous ensemble de braves camarades aujourd'hui, et qui sait, dans quelques années, Henri et Desros y seront avocats ou professeurs, et vous autres quatre, ouvriers, boutiquiers, à tous les diables. Et alors, bonsoir la camaraderie. » « Comment ? » répondit Desros. « Pour moi, Garonne sera toujours Garonne, Précoce sera toujours Précoce, et les autres de même, dussé-je devenir empereur de toutes les Russies. N'importe où ils seront, j'irai. » « Bravo ! » s'écria Corette y père en levant son verre. « Voilà qui est bien parlé. Touchez-la, brave camarade, et vive l'école qui fait une seule famille de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas. » Nous trinquâmes tous avec lui. « Vive le carré de 1849 » cria-t-il encore. « Et si jamais, enfants, on vous met en bataillon carré, vous aussi, tâchez de tenir dur comme nous avons tenu, nous autres. » Il était déjà tard. Nous descendîmes en courant et en chantant, nous tenant sous le bras, et nous arrivâmes au bord du pot dont les flots s'assombrissaient et sur lesquels volaient déjà des milliers de lucioles. Nous nous séparâmes place du statut, après être convenus de nous retrouver tous dimanche à la distribution des prix aux élèves des cours du soir. Quelle belle journée, et comme je serais rentré content à la maison si je n'avais pas rencontré ma pauvre maîtresse. Je la croisai dans les escaliers obscurs. Elle me prit les deux mains et me dit à l'oreille « Adieu, Henri, souviens-toi de moi. » Je m'aperçus qu'elle pleurait. Je montai et dis à maman que j'avais rencontré ma maîtresse. « Elle allait se mettre au lit, » répondit maman, les yeux rouges, et elle ajouta avec grande tristesse en me regardant. « Ta pauvre maîtresse est très mal. » La distribution des prix aux ouvriers, dimanche 25. Ainsi que nous en étions convenus, nous sommes tous allés au théâtre Victor-Emmanuel assister à la distribution des prix des ouvriers. Le théâtre était plein comme au 14 mars, mais cette fois, le public presque tout entier appartenait à la classe ouvrière. Le parterre était occupé par les élèves de l'école de chant choral. Ils chantèrent un hymne dédié aux soldats morts en Crimée, hymne si beau que lorsqu'il fut achevé, tout le monde se leva en battant des mains et en criant « bis ». Il fallut recommencer le morceau. Tout de suite après, les lauréats commencèrent à défiler devant le maire, le préfet et beaucoup d'autres personnages qui donnaient des livres, des livrets de caisse d'épargne, des diplômes et des médailles. Je vis dans un coin de la salle le petit maçon assis près de sa mère, puis un peu plus loin notre directeur et derrière lui la tête à cheveux rouges de mon professeur de seconde. Nous vîmes défiler les lauréats des écoles de dessin, des orfèvres, des ciseleurs, des lithographes, et même des menuisiers et des maçons, puis ceux des écoles de commerce, ceux des écoles de musique, parmi lesquels se trouvaient quelques jeunes filles et des ouvriers en habits de fête. On les applaudissait à outrance et ils en paraissaient heureux. Enfin arrivèrent les élèves des écoles élémentaires du soir. C'était vraiment beau de voir passer ces hommes de tous les métiers vêtus de mille façons. Des hommes à cheveux gris, des enfants d'ouvriers, des ouvriers à grande barbe noire. Les jeunes gens étaient dispos, les hommes âgés un peu embarrassés. Le public applaudissait les jeunes et les vieux. Mais personne ne riait comme à nos prix, tous les visages étaient attentifs et sérieux. Beaucoup d'entre les lauréats avaient leurs femmes et leurs enfants au parterre, et certains petits mioches, en voyant leur père sur la scène, l'appelaient tout haut, le suivant du doigt et riant fort. Il passa des paysans, des portefaix, entre autres un décrotteur que mon père connaît et auquel le préfet donna un diplôme. Je vis venir après lui un géant que j'avais déjà vu quelque part. C'était le père du petit maçon qui obtenait le second prix. Je me rappelai alors le soir où je le vis dans sa mansarde, au lit de son fils moribond, et je cherchai aussitôt des yeux le petit maçon. Pauvre petit, il regardait son père d'un air attendri et, pour cacher son émotion, lui faisait le museau de lièvre. En ce moment, une explosion d'applaudissements attira mon attention sur la scène où se trouvait un petit ramoneur, le visage lavé, mais portant ses habits couleur de suie. Le maire lui parlait en lui tenant la main. Après le ramoneur, ce fut le tour d'un cuisinier, puis un balayeur de rue vint prendre la médaille que lui accordait l'école Rennere. Je me sentais un je ne sais quoi au cœur, comme un grand respect et une grande sympathie pour tous ces travailleurs, pères de famille, en pensant combien ces prix avaient dû ajouter d'occupation à leurs travaux, de fatigues à leurs fatigues, combien d'heures prises au sommeil dont ils ont tant besoin. Et aussi que d'efforts pour leur intelligence peu habituée à l'étude et leurs mains endurcies au travail. Dans ce défilé passa un apprenti à qui son père avait prêté sa redingote. Cela se voyait à ses manches trop longues qu'il dut relever sur la scène pour prendre son prix. Quelques rires se firent entendre, bientôt couverts par des applaudissements. Après lui vint un vieillard chauve à barbe blanche, des soldats d'artillerie, dont quelques-uns venaient au cours du soir à notre section, puis des douaniers et des gardes municipaux, de ceux qui gardent nos écoles. Enfin, les élèves de chant entonnèrent encore l'hymne aux soldats de Crimée, cette fois avec tant d'élan et tant d'émotion que l'on osa à peine applaudir et qu'on sortit ensuite avec émotion, lentement, sans bruit. En peu d'instants, la rue fut encombrée. Devant la porte du théâtre se tenait le petit ramoneur, son livre rouge sous le bras, entouré de messieurs qui lui parlaient avec intérêt. Beaucoup de gens se saluaient, ouvriers, enfants, gardes, professeurs. Mon maître de seconde sortit, accompagné par deux soldats d'artillerie, mais le plus touchant était de voir des femmes d'ouvriers, dont les enfants portés au bras tenaient entre leurs petites mains le brevet du père et le montraient fièrement aux passants. La mort de mon institutrice. Mardi 27. Tandis que nous étions au théâtre Victor-Emmanuel, ma pauvre institutrice se mourait. Elle est morte à 2 heures, 7 jours après sa visite chez ma mère. Le directeur nous a annoncé hier matin la triste nouvelle. Il a ajouté « Ceux de vous qui furent ses élèves savent combien elle était bonne et combien elle aimait les enfants. Elle était une mère pour eux. » Elle n'est plus. Une terrible maladie l'a consumée depuis longtemps. Si elle n'avait pas dû travailler pour gagner son pain, elle aurait pu se soigner et se guérir peut-être. Elle aurait pu prolonger sa vie de quelques mois en demandant un congé. Mais elle a voulu rester avec ses élèves jusqu'au jour où ses forces la trahirent. Samedi 17 au soir, elle prit congé d'eux avec la triste certitude de ne plus les revoir. Elle leur donna encore de bons conseils, les embrassa tous et se sauva en sanglotant. « Vous ne la reverrez plus désormais. Souvenez-vous d'elle, enfant. » Le petit précoce, qui avait été son élève en première, pencha la tête sur son pupitre et se mit à pleurer. Hier soir, après la classe, nous allâmes tous à la maison mortuaire pour accompagner le convoi à l'église. Le char funèbre stationnait déjà dans la rue et beaucoup de gens attendaient, tout en se parlant à voix basse. Le directeur était là avec les professeurs et les institutrices de l'école et beaucoup d'autres de sections diverses où la défunte avait professé jadis. Presque tous les élèves de sa classe étaient présents, conduits par leur mère. Une cinquantaine d'élèves de la section Baretti apportaient une grande couronne et d'autres des bouquets de roses. On avait déjà déposé beaucoup de fleurs sur le char auquel était pendue une grande couronne avec cette inscription « À leur institutrice, les élèves de quatrième ». Et sous cette couronne-là, il y en avait une plus petite apportée par les élèves de première. Arrivés à l'église, on couvrit le cercueil de fleurs et on commença à dire les prières. Puis, tout à coup, lorsque le prêtre eut dit le dernier « Amen », les cierges s'éteignirent, tout le monde sortit en hâte, et la pauvre morte resta seule. « Pauvre maîtresse, si bonne pour moi, qui eut tant de patience et se donna tant de mal pendant des années !» Elle a laissé ses livres à ses élèves. À un son encrier, à un autre un petit tableau, tout ce qu'elle possédait. Deux jours avant de mourir, elle pria le directeur de ne point permettre aux plus petits de suivre son convoi afin qu'ils ne pleurassent pas. Elle a fait du bien, elle a souffert, elle est morte. Pauvre maîtresse, adieu. Adieu pour toujours, ma bonne amie, triste et doux souvenir de mon enfance. Remerciements. Mercredi 28. Ma pauvre institutrice a voulu finir son année scolaire. Elle est morte 3 jours avant que les leçons fussent terminées. Après-demain, nous irons encore en classe pour entendre lire le dernier récit mensuel intitulé « Un naufrage » et puis ce sera fini. Samedi 1er juillet, les examens. Voilà donc encore une année de passé, la quatrième est terminée. L'année eût été bonne sans la mort de ma pauvre maîtresse. Quand je pense à ce que je savais en octobre dernier, il me semble savoir beaucoup plus. J'ai tant de choses nouvelles dans la mémoire. J'écris et je dis mieux ce que je pense. Je pourrais faire des comptes pour de plus grands que moi et les aider dans leurs affaires. Je comprends bien plus. Je comprends presque tout ce que je lis. Je suis content. Mais aussi, comme on m'a poussé à apprendre, qui d'une manière, qui de l'autre, à la maison, à l'école, en chemin, partout où je suis allé. Je remercie tout le monde aujourd'hui. Je remercie d'abord mon cher professeur qui est si indulgent et si affectueux envers moi et pour lequel chacun de mes progrès a été marqué d'une fatigue. Je remercie Derossi, mon bon camarade, qui, par ses explications vives et nettes, m'a si souvent fait comprendre des choses difficiles et surmonter les difficultés de l'examen. Je remercie Stardi, brave et fort, qui m'a montré comment une volonté de faire réussit en tout. Garonne est bon et généreux ami qui rend généreux et bon tous ceux qui te connaissent. Et vous aussi, Precossi et Coretti, qui m'avez toujours donné l'exemple du courage dans les peines et de la sérénité dans le travail. Mais c'est toi surtout que je remercie, mon bon père. Toi, mon premier maître, mon premier ami, toi qui m'as donné tant de bons conseils et enseigné tant de choses. Pendant que tu travaillais pour moi et que tu me cachais tes tristesses, tu cherchais à me rendre l'étude facile et la vie agréable. À toi, ma bonne mère, mon ange gardien aimé et béni, qui a partagé toutes mes joies et toutes mes peines, qui a étudié, travaillé, pleuré pour moi, me caressant d'une main et de l'autre me montrant le ciel. Je m'agenouille devant toi comme lorsque j'étais petit, et je vous remercie tous deux avec la tendresse que vous avez mise en mon cœur en ces 12 ans de sacrifices et d'amour. Un naufrage. Dernier récit mensuel. Il y a quelques années, un matin du mois de décembre, un grand bâtiment à vapeur sortait du port de Liverpool. Il avait à son bord plus de 200 personnes, dont 60 hommes d'équipage. Le capitaine et presque tous les matelots étaient anglais. Parmi les passagers se trouvaient plusieurs Italiens, 3 messieurs, un prêtre, des musiciens. Le bâtiment se dirigeait vers l'île de Malte. Le temps était mauvais. À l'avant, on voyait au milieu des passagers de 3e classe un garçon italien d'une 12 années, petit pour son âge mais robuste, ayant le visage sévère et résolu des Siciliens. Il était là, tout seul, assis sur un monceau de cordes, près d'une valise usée qui contenait ses vêtements, et sur laquelle il appuyait sa main. Le visage brun, les cheveux noirs bouclés descendant jusque sur le cou, ce pauvre enfant était vêtu misérablement et un châle mesquin couvrait ses épaules, tandis que sa vieille gibecière de cuir passait sur son épaule en bandoulière. Il regardait autour de lui, d'un air inquiet, les passagers, le bâtiment, les marins qui passaient en courant et la mer mugissante. Cet enfant avait l'aspect de quelqu'un qui vient de souffrir d'un grand chagrin de famille. Visage innocent et regard attristé. Peu après le départ, un matelot, italien à cheveux gris, parut à l'avant conduisant une fillette par la main. Il s'arrêta devant le petit Sicilien et lui dit « Je t'amène une compagne de voyage, Mario. » Et il s'éloigna. La fillette s'assit sur le monceau de cordes auprès du petit garçon. Ils se regardèrent. « Où vas-tu ? » demanda le Sicilien.
« À Malte, par Naples, » répondit la fillette.
Puis elle ajouta,
« Je vais retrouver mon père et ma mère qui m'attendent. Je m'appelle Giulietta Fadiani. »
Le garçon ne répondit rien. Quelques moments après, il tira de sa gibecière du pain et des fruits secs. La fillette avait des biscuits. Ils mangèrent.
« Gaiement !» s'écria le marin italien en passant. « On va commencer à danser !»
Le vent soufflait plus fort, le navire roulait horriblement, mais les deux enfants qui ne souffraient pas du mal de mer n'y faisaient pas attention. La fillette souriait. Elle avait à peu près l'âge de son compagnon, mais était plus grande que lui. Brune de teint, elle aussi, frêle, ayant pâti, vêtue plus que modestement. Ses cheveux bouclés étaient coupés courts sur un mouchoir rouge et à ses oreilles pendaient deux petits cercles d'argent. Les deux enfants se racontèrent leur histoire. Le garçonnet était orphelin. Son père, un ouvrier, était mort à Liverpool quelques jours auparavant et le consul d'Italie, sachant l'enfant seul, l'avait renvoyé dans son pays, à Palerme, où il comptait trouver quelques parents éloignés. La fillette avait été conduite à Londres l'année précédente par une tante qu'il aimait beaucoup et à laquelle ses parents, très pauvres, l'avaient confiée quelque temps sur la promesse de la constituer son héritière. Peu de mois après, la tante était morte écrasée par un omnibus sans laisser un centime. Le consul d'Italie l'avait, elle aussi, embarquée pour le pays. Les deux enfants étaient recommandés aux marins italiens.
« Comme cela, acheva la fillette, mon père et ma mère, qui croyaient me voir revenir riche, me retrouveront pauvre comme devant. Mais ils m'aiment tant que je serai quand même la bienvenue. Et mes frères, quelle joie ils auront de me voir! J'en ai quatre, tout petits. Je suis l'aîné. J'habille les marmots. Quelle fête à mon retour! J'entrerai sur la pointe des pieds. La mer est mauvaise. »
Puis elle demanda à son petit compagnon.
« Et toi, tu vas retrouver tes parents ?»«
Oui, s'ils veulent bien de moi, » répondit-il.
« Ils ne t'aiment point ?»«
Je ne sais pas. »
« J'aurai 13 ans à Noël, » dit la fillette.
Ils parlèrent encore de la mer et des gens qui les entouraient. Toute la journée, ils restèrent l'un près de l'autre, échangeant de temps à autre quelques paroles. Les passagers crurent qu'ils étaient frères et sœurs. La fillette tricotait un bas, le garçonnet était pensif, la mer devenait de plus en plus houleuse. Le soir, au moment de se séparer de son compagnon pour aller dormir, la fillette dit à Mario
« Dors bien !»
« Personne ne dormira bien, mes pauvres enfants !» fit le matelot italien qui passait en courant, appelé par le capitaine.
Mario voulait répondre « Bonne nuit » à sa petite amie, quand l'écume d'une vague l'inonda tout à coup en le jetant contre un banc.
« Mon Dieu, tu es blessé !»
s'écria la fillette en s'élançant vers lui. Les passagers qui descendaient en hâte ne prirent pas garde aux enfants. La fillette s'agenouilla auprès de Mario, restée étourdie sous le coup, essuya son front ensanglanté et, enlevant le mouchoir rouge qui couvrait ses cheveux, elle en banda le front de son compagnon. En serrant la tête de Mario pour attacher le mouchoir, une goutte de sang tacha sa robe jaune. Mario reprit ses sens et se releva.
« Te sens-tu mieux ? » demanda-t-elle.
« Ce n'est plus rien, » répondit-il.
« Dors bien !» fit Giulietta.
Bonne nuit, dit Mario.
Et ils descendirent à leur dortoir.
Le matelot avait prédit juste. Les enfants n'étaient pas encore endormis qu'une tempête se déchaîna. Ce fut comme un assaut furieux qui, en peu de temps, brisa un mât et emporta trois barques, suspendues au palan, en dehors du bâtiment, ainsi que trois bœufs qui se trouvaient à l'avant. Une confusion indescriptible et une grande terreur régnèrent alors sur le bâtiment. C'étaient des cris, des pleurs, des prières à faire pitié. La tempête alla croissant toute la nuit. À l'aube, elle était dans toute sa rage. Les vagues formidables inondaient le bateau, tantôt en travers, tantôt en long, emportant avec elles et brisant tout ce qu'elles rencontraient. La plateforme qui couvrait la machine fut effondrée et l'eau se précipita dedans avec un fracas terrible, éteignit les feux et mit en fuite les chauffeurs. Des torrents d'eau ruisselaient de toutes parts, pénétrant partout. Une voix tonnante cria « Aux pompes !» C'était la voix du capitaine. Les matelots s'élancèrent aux pompes. Mais un coup de mer inattendu, frappant le bâtiment à l'arrière, rompit les cordages et les portes et jeta à l'intérieur une trombe d'eau. Les passagers, plus morts que vifs, s'étaient tous réfugiés dans la grande salle. À un certain moment, le capitaine apparut. « Capitaine ! Capitaine ! » crièrent-ils tous ensemble. « Qu'y a-t-il ? Comment sommes-nous ? Y a-t-il de l'espoir ? Sauvez-nous ! » Le capitaine attendit que l'on fît silence et dit froidement « Résignons-nous ! » Une femme seule jeta ce cri. « Pitié ! » Personne ne put articuler un mot, la terreur avait glacé les malheureux. Un assez long temps se passa ainsi dans un silence de mort. On se regardait, pâle et terrifié. À un moment donné, le capitaine tenta de lancer une barque à la mer. Cinq marins la montaient. La barque descendit. À peine avait-elle touché l'onde qu'une vague énorme la fit chavirer. Deux des marins qui la montaient se noyèrent, entre autres l'Italien. Les autres réussirent, non sans grands efforts, à rattraper les cordes et à remonter à bord. Après cette épreuve, les matelots eux-mêmes perdirent courage. Deux heures se passèrent. Le bâtiment s'enfonçait dans l'eau jusqu'au parapet. Une scène terrible se passa alors sur le pont. Les mères serraient avec désespoir leurs enfants sur leurs seins, les amis s'embrassaient et se disaient adieu. Quelques-uns descendaient dans les cabines pour ne point voir la mer. Un des passagers se tira un coup de revolver et tomba dans l'escalier où il expira. D'autres malheureux se pressaient fiévreusement dans l'attente de la mort. Plusieurs s'agenouillaient autour d'un prêtre qui leur donnait l'absolution. On entendait un chœur de sanglots, de cris d'enfants, de voix aiguës, étranges, et on voyait çà et là des gens immobiles, stupéfiés, les yeux ouverts et sans regard comme ceux des fous. Les deux enfants, Mario et Giulietta, embrassaient de leurs bras un des mâts du bâtiment, et regardaient la mer de leurs yeux fixes. La mer s'était un peu calmée, mais le bâtiment continuait à s'enfoncer lentement. Il ne restait plus que quelques minutes et il allait couler à fond. « La chaloupe à la mer !» cria le capitaine. Une chaloupe, dernière embarcation qui resta, fut jetée à l'eau. 14 matelots et 3 passagers y descendirent. Le capitaine resta à bord. « Descendez avec nous !» lui cria-t-on d'en bas. « Je dois mourir à mon poste !» dit le capitaine. « Nous rencontrerons un bâtiment !» crièrent les matelots. « Nous vous sauverons ! Descendez ou vous êtes perdus !»« Je reste !»« Il y a encore place pour une personne, une femme !» crièrent les marins en s'adressant aux passagers. Une femme s'avança, soutenue par le capitaine, mais vu la distance où se trouvait la barque, elle ne se sentit pas le courage de s'élancer et retomba sur le pont. Les autres femmes étaient évanouies ou à demi mortes. « Un enfant !» crièrent les marins. À ce cri, le petit Sicilien et sa compagne, qui étaient restés jusque-là pétrifiés, furent repris soudain par l'instinct de la conservation et s'élancèrent au bord du bâtiment en criant « Moi ! Moi !» et ils se repoussaient mutuellement comme deux fauves. « Le plus petit !» crièrent les marins. « La barque est surchargée ! Le plus petit !» En entendant ces paroles, la fillette, pétrifiée, laissa tomber ses bras et resta immobile, jetant sur Mario ses yeux mourants. Mario la regarda un instant, vit la tache de sang sur sa robe, se rappela la bonne action de sa petite amie, et l'éclair d'une idée divine fit rayonner son visage.
« Le plus petit !»
crièrent en chœur les marins avec un accent d'impatience.
« Nous partons !»
Alors Mario cria d'une voix qui n'avait plus rien d'humain, mais quelque chose de céleste.
« C'est elle la plus légère. À toi, Giulietta. Tu as encore ton père et ta mère. Je suis seule. Je te donne ma place. Descends.
« Jette-la à la mer !» crièrent les marins. Mario saisit Giulietta par la taille et la jeta. La fillette poussa un cri et fit un plongeon. Un marin l'attrapa par le bras et la tira dans la chaloupe. Le petit Sicilien demeura debout sur le bord du bâtiment, le front haut, les cheveux au vent, immobile et sublime. La barque s'éloigna à temps pour éviter d'être entraînée par le tourbillon que produisait le bâtiment en s'enfonçant. Alors Giulietta, qui jusque-là paraissait hors d'elle, leva les yeux vers Mario et éclata en sanglots.
« Adieu, Mario !»
lui cria-t-elle à travers ses sanglots et en tendant les bras vers lui.
« Adieu ! Adieu ! Adieu !»«
Adieu !» répondit l'enfant en levant la main vers le ciel. La barque s'éloignait vivement sur la mer agitée. Le ciel était sombre. Personne ne criait plus sur le bâtiment. L'eau baignait déjà l'encadrement du pont. Tout à coup, Mario tomba à genoux, les mains jointes et les yeux levés dans une prière suprême. Giulietta cacha son visage dans ses mains. Quand elle releva la tête et jeta un regard sur la mer, le bâtiment avait disparu.